Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Lutte contre la variole de singe ou monkeypox. Un plan de réponse conjoint pour l'Afrique vient d'être lancé par les centres africains de contrôle et de prévention des maladies avec l'OMS. Coût global pour 6 mois, environ 600 millions de dollars américains. Ituri, l'ONG AGEDEC vole au secours des plus de 380 élèves du site des déplacés de Kigonze et à Bunia. C'est dans le cadre du projet d'éducation et de protection des enfants affectés par les conflits armés en Ituri. Les parents saluent ce geste mais déplorent l'insuffisance des places pour beaucoup d'enfants. Et puis, l'invité de ce matin, Joël Ndagana, coordonnateur provincial du service de protection civile au Nord Kivu. Il nous parle notamment des opérations prioritaires et des défis auxquels sa structure fait face en ce temps de crise sécuritaire et humanitaire en province. Madame, Messieurs, bonjour. Santé pour commencer. Les centres africains de contrôle et de prévention des maladies CDC Afrique et l'Organisation mondiale de la santé OMS ont lancé vendredi un plan de réponse conjoint pour le continent afin de soutenir les efforts des pays pour freiner la propagation du virus monkeypox, sauver et protéger des vies. Ils veulent ainsi renforcer et accélérer la réponse à cette épidémie en Afrique. Le budget global pour le plan de 6 mois couvrant la période de septembre 2024 à février 2025 est proche de 600 millions de dollars, dont 55% sont alloués à la réponse au monkeypox dans 14 États membres touchés. Des précisions dans ce reportage de Gisèle Cage, rendu par Étienne Lissoumbo.
Il s'agit d'une étape importante dans une action coordonnée entre nos agences pour soutenir le pays en renforçant l'expertise, en mobilisant les ressources et les capacités pour stopper rapidement et efficacement la propagation du Mpox, a déclaré vendredi la docteure Mathilde Omoeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. En nous unissant, nous pouvons accomplir davantage et notre force collective nous mènera plus loin en veillant à ce que les communautés et les individus soient protégés contre la menace de ces virus, a-t-il poursuivi. Les plans comprennent des mesures visant à renforcer la surveillance, la détection en laboratoire, la gestion des cas, la prévention et le contrôle des infections, la vaccination, la communication des risques et l'engagement communautaire, ainsi que la recherche et l'innovation. Le budget global estimé pour le plan des 6 mois couvrant la période de septembre 2024 à février 2026 est proche des 600 milliards de dollars, dont 55% sont alloués à la réponse au Mpox dans 14 États membres touchés et à la préparation dans 15 autres États, tandis que 45% sont consacrés au soutien opérationnel et technique par l'intermédiaire des partenaires. Le lancement du plan stratégique de préparation et des réponses au Mpox fait suite aux déclarations d'une urgence de santé publique et de sécurité continentale par l'OMS.
En Ituri, plus de 380 élèves de l'école primaire Saint-Luc au site des déplacés de Kigonze et à Bunia sont pris en charge par l'ONG Association des Jeunes pour le Développement Communautaire, AGEDEC. C'est dans le cadre du projet d'éducation et de protection des enfants affectés par les conflits armés dans cette province. Les parents saluent ce geste qui vise à offrir l'éducation à ces élèves. Cependant, ils déplorent le manque de place pour beaucoup d'enfants au sein de cette école. Le point de la situation avec Ezekiel Mouzalia.
Ce sont au total 7 salles de classe sur les 9 que compte l'école primaire Saint-Luc au site des déplacés de Kigonze à Bunia qui sont bénéficiaires de ce projet d'éducation et d'encadrement des enfants victimes des conflits armés. C'est entre autres des classes de première, deuxième, troisième et quatrième année qui, avec leurs encadreurs, vont bénéficier des fournitures et manuels scolaires, mais aussi d'une petite prime d'encouragement aux enseignants tout au long de cette année scolaire. Blondiringa Mande, représentant des élèves.
Nous, le comité directeur des élèves de l'EPCLI qui vivent dans les camps de déplacés. Nous demanderions aux autorités de la RDC de mécaniser notre école qui compte aujourd'hui plus de 1200 élèves, d'augmenter le nombre de latrines et de les affaires avec le kit scolaire.
Selon le chargé des programmes de l'ONG AGEDEC, cet appui constitue une goutte d'eau dans l'océan des besoins des déplacés, Jean de Dieu Diary.
On s'est convenu avec le directeur, pour les 7 salles de classe, il faudra qu'il puisse enregistrer 385 AFA, mais malheureusement, il est à 543 AFA. Et vous voyez le besoin qui manque encore là.
Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, entre-temps, la responsable de la sous-division de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST Loubero 1, alerte sur le nombre pléthorique d'élèves dans plusieurs écoles primaires publiques de Loubero Centre et sa périphérie, une situation consécutive à l'afflux des déplacés dans cette commune rurale à cause de l'insécurité causée par les rebelles du M23 et ceux des EDF. D'après Dévote Kavira Kamoua, il y a nécessité de dédoubler les salles de classe pour soulager les enseignants, car cette pléthore risque d'affecter la qualité de l'enseignement. Elle plaide pour l'implication du gouvernement et ses partenaires pour décanter cette situation. Dévote Kavira Kamoua, responsable de la sous-division de l'EPST Loubero 1, joint par Grévis Salomo.
La pléthore constitue vraiment une difficulté que nous ne savons comment surmonter. La gestion pose problème et nous exprimons un besoin criant de l'augmentation des salles de classe. Déjà avec cette situation de pléthore, ça affecte fortement la réussite des enfants. Pour rester l'enseignant à l'école primaire, quand vous enseignez 80 élèves dans une même salle, les enseignants sont épuisés. Nous prions vraiment à notre gouvernement de nous permettre de dédoubler les salles de classe et cela nécessite la construction mais aussi l'affectation de nouveaux enseignants. En tout cas, nous avons intérêt à désengorger les salles de classe pour booster la qualité de l'enseignement. Nous voudrions que les partenaires du gouvernement puissent appuyer nos écoles en support pédagogique parce qu'il n'y a pas que le dédoublement qui peut nous apporter la solution et surtout que nos écoles sont dépourvues de beaucoup de supports. Il y a d'autres matériels peut-être qui pourraient aider les enseignants comme la sonorisation.
Province du Maniema, l'université moyenne Lualaba, UML Kalima, est en difficulté de fonctionnement. En plus d'être locataire, cette université publique de l'État manque des moyens pour finaliser ses projets. Les autorités académiques lancent un SOS en direction du gouvernement, tant provincial que national. On écoute à ce sujet Wase Kakasumbi, assistant principal du recteur de UML Kalima. Il est au micro de Florence Kizalunga.
D'abord à retenir pour cette université, c'est un établissement public de l'État congolais qui existe depuis longtemps, qui court des grandes difficultés par manque de moyens financiers. Vous savez que les fonds justifient les moyens. Sans moyens, on ne peut rien faire. Si cette université était subventionnée par l'État congolais, elle pouvait avoir ses propres bâtiments, financer ses projets et se mettre en ordre comme d'autres universités d'ailleurs. Mais faute de moyens, elle ne parvient pas malgré sa bonne volonté. Elle se serait offert déjà des bâtiments, des matériels pouvant lui permettre d'organiser même des cours à distance, par exemple des vidéoconférences, et s'équiper par exemple des matériel informatique, avoir une bonne connexion, mais tout ça demande des moyens. Donc nous profitons de votre micro pour dire au gouvernement, tant provincial que national, aux élus et les hommes de bonne foi, s'ils peuvent suivre cette voie et entendre qu'il y a une grande nécessité de moyens à l'université du Moyen Lualaba de Kalima.
Merci de nous recevoir dans le territoire de Beni, au Nord Kivu. Le chef du secteur de Benimbao et plusieurs couches de la population de Babila Bakaiku Mamove ont échangé vendredi autour de la persistance de l'insécurité dans cette localité située à 50 km de Beniville. Léon Kakule Siviwe a insisté sur la nécessité de renforcer la collaboration entre la population et les forces de défense et de sécurité qui mènent des opérations conjointes pour traquer les rebelles des EDF dans la zone. De son côté, la société civile du secteur de Benimbao demande au chef de cette entité coutumière de transmettre les attentes des habitants auprès de sa hiérarchie. Georges Kivaya, président de la société civile du secteur de Benimbao, joint par Grévis Salomo.
Vous savez, Mamove est insécurisé chaque jour au massacre. Nous disons au chef de secteur de capitaliser ce qu'il a eu comme information aux côtés de la population. Nous osons croire qu'il a pris à compte les alertes de la population pour que la voix de Mamove soit écoutée. Et nous saluons aussi les militaires qui continuent à traquer l'ennemi dans cette zone. Et nous décourageons aussi les militaires qui tracassent la population. Et nous disons au chef de secteur de ne pas se comporter à la société civile à dénoncer. Il doit agir et que autorité suprême du secteur de Benimbao. Nous savons que l'ennemi est encore dans cette partie. C'est pour dire que la population doit être prudente et vigilante et à suivre aussi les consignes des outils de sécurité. Si les outils de sécurité disent qu'il ne faut pas fréquenter tel village, il faut écouter ces consignes parce que nous savons que l'ennemi est encore là.
Au Kassai-Oriental, il est interdit formellement aux non-résidents de circuler en ville Miba à partir de 21h30 locale. La ville Miba est un camp où résident les agents de maîtrise et les cadres de la société minière de Bakwanga à Mbujimayi. Dans un communiqué publié mercredi, la direction générale de la Miba annonce une série de mesures et signale l'instauration d'une patrouille mixte composée des éléments de DSP, escadron police des mines, pour contrôler et identifier les personnes non-résidents au camp Miba. Plus de précision avec Esther Ndalafina.
Dans le communiqué de presse, la société minière de Bakwanga Miba demande à ses travailleurs et au public de démolir toutes les constructions de fortune, dont notamment les briques adobe et autres maisons de tolérance. Un ultimatum d'un mois est donc accordé pour se conformer à cette disposition. Concernant les activités de débit de boissons et autres manifestations, la Miba informe qu'elles doivent débuter à 15h et se clôturer à 21h. Cette disposition sera d'application à partir du 10 septembre en cours. Cependant, l'utilisation nocturne des instruments de sonorisation est interdite. La Miba interdit en outre la circulation des personnes au poste résidentiel à partir de 21h30 pour les non-résidents. Au-delà de 7h, les habitants du poste doivent se munir de cartes d'électeur ou de service. La direction de la société minière justifie ces mesures pour des raisons de sécurité et d'inquiétude des habitants du poste résidentiel. Plusieurs observateurs salue les dispositions de la Miba, étant donné que les maisons de cadres sont régulièrement visitées par des bandits. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Dans la province du Kwango, nous apprenons que 15 détenus de la prison centrale de Kenge viennent d'être libérés par les autorités judiciaires. C'est sur instruction du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, et c'est dans le but de désengorger cette maison carcérale. On parle des personnes poursuivies pour des faits bénins, des malades, des invalides, des vieillards, voire des personnes déjà acquittées mais gardées en prison. C'est le ministre provincial de la Justice du Kwango, Timothée Nzundu, qui livre l'information. Il est au micro de Irène Boma.
C'est sur instruction de son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui nous a demandé de désengorger les lieux pénitentiaires à cause de trop de monde dans toutes ces prisons. En fait, nous avons vu, il y a eu des malades, il y a eu des invalides, il y a eu des vieillards. Et certains cas aussi, ce sont les gens qu'on avait acquittés par les tribunaux, mais ils sont restés en prison. Alors, toutes ces études ont fait que aujourd'hui, pour la quatrième fois qu'on aille pour libérer les 15 prisonniers qui étaient dans ces cas bénins. Nous avons déjà au moins totalisé 38 prisonniers que nous venons de libérer sur 313. Et aujourd'hui, nous parlons de 273 qui sont restés dans notre prison. Et au fur et à mesure, l'étude est en train d'être faite par rapport à des engorgements. Et nous allons voir comment faut-il finir avec cette instruction.
Le ministre provincial de la Justice précise que la maison carcérale de Kenge a été construite pour une capacité de 50 détenus. Et puis, ce triste anniversaire, cela fait 27 ans depuis la disparition de l'ancien président du Zaïre, devenu RDC. Le maréchal Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Azabanga est décédé le 7 septembre 1997 au Maroc. Pour commémorer ce triste anniversaire, une messe d'action de grâce a été dite samedi 7 septembre à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. Les membres des familles biologiques, notamment les fils et autres petits-fils, anciens collaborateurs, amis et connaissances du feu maréchal Mobutu, tout était présent, un moment de se remémorer l'héritage que cet homme d'État a légué à la nation congolaise. Reportage signé Jacques-Yves Molima.
Indéniablement, l'unité nationale reste l'héritage phare que les Congolais d'aujourd'hui mettent à l'actif du feu maréchal Mobutu, et non sans raison, car les témoignages ne tarissent jamais. Sur le cas de Maman Zouzou Mbombo, présente à la messe, pour elle, une introspection collective s'impose.
L'unité nationale était une chose réelle. Nous devons, nous les intellectuels, bannir le tribalisme. Et je pense que si nous pouvons faire un effort de faire marche en arrière pour essayer d'intégrer et d'éprouver dans les actes tout ce qu'il nous avait donné comme héritage, nous aurons un pays où il fait bon vivre.
Pour l'officier du jour, l'abbé curé Camille Essikadingo, les Congolais ont le devoir de perpétuer cet héritage aux générations futures. Enfin, au nom de la famille, André Bouanga a non seulement plaidé pour le retour des restes du feu maréchal Mobutu au pays, mais également de Moïse Tshombe, tout en leur réservant une reconnaissance nationale.
Actualité internationale.
Nous sommes au Kenya. Après le drame survenu dans un internat cette semaine, des familles encore sous le choc attendent des nouvelles de leurs enfants. 3 jours de deuil entre-temps ont été décrétés par le président William Ruto, pendant lesquels les drapeaux seront en berne en mémoire des enfants disparus. En effet, 18 élèves de l'école primaire Hillside et Ndaracha dans le comté de Nyeri sont morts dans l'incendie qui a ravagé leur dortoir jeudi soir. 70 sont toujours introuvables, 27 autres sont hospitalisés. Une enquête est en cours, a confirmé la police du comté. Selon un rapport du ministère de l'Éducation, les incidents de ce genre sont quasi fréquents dans les internats, souvent dus à des causes humaines et à la surpopulation. Notez que le dortoir qui a pris feu abritait plus de 150 garçons âgés de 10 à 14 ans.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le coordonnateur provincial du service de protection civile au Nord Kivu. Joël Ndagana nous parle des opérations prioritaires et des défis auxquels sa structure fait face en ce temps de crise sécuritaire et humanitaire en province. Il revient aussi sur l'apport du nouveau bâtiment dont a bénéficié récemment son bureau provincial grâce à un financement de la MONUSCO. Joël Ndagana est avec Bernard Nyangi.
Monsieur Joël Ndagana, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été doté il y a quelque temps d'un nouveau bâtiment qui fait office de votre bureau de la coordination provinciale de la protection civile par le partenariat avec la MONUSCO. Quel est l'apport de ce bureau-là par rapport à vos opérations?
Tel que vous le saviez, nous travaillons auparavant au cabinet du gouverneur et le bureau des collaborateurs et mon bureau étaient presque dispersés, mais au moins nous avons trouvé une occasion d'être ensemble et de travailler dans un cadre qui nous facilite vraiment, en tout cas, l'amélioration de nos missions. En plus de cela, nous avons au moins une salle qui nous facilite aussi d'avoir des réunions dans le cadre du Conseil provincial de prévention et de gestion des risques avec toutes les unités et les partenaires avec qui nous évoluons dans le cadre de notre service.
Nous connaissons que la protection civile, la coordination provinciale, supervise Butembo, Beni, Masisi, Walikale et consorts. Actuellement, vos opérations sont circonscrites seulement à Goma ou bien vous avez la possibilité quand même de couvrir toute votre zone facilement?
Nous couvrons les 3 villes qui regorgent la province Nord Kivu, la ville de Goma, la ville de Butembo, la ville de Beni, mais à cela s'ajoute le territoire. Dans ces entités, toutes les activités qui se font doivent remonter jusqu'au niveau de la coordination provinciale et même les orientations viennent de la coordination provinciale. Étant donné que nous sommes dans une période tumulte où nous sommes en train de subir une guerre d'agression, comprenez que cela pose problème par rapport à nos activités. Nos collaborateurs de certaines entités qui se retrouvent aujourd'hui dans les sites de déplacés parce qu'ils ne peuvent pas œuvrer dans leurs entités. Mais qu'à cela ne tienne, quand même, nous avons ce que nous appelons les observateurs communautaires qui sont dans l'anonymat, dans la communauté, dans ces zones occupées et remontent quand même les informations, c'est-à-dire souvent les alertes auprès de la coordination provinciale. Et en dehors des observateurs communautaires, nous avons des observateurs aussi citoyens qui sont aussi dans ces entités qui remontent toutes les catastrophes. En fait, les observateurs citoyens, elles nous remontent les catastrophes naturelles, tandis que les observateurs communautaires nous remontent toutes les alertes concernant la protection de la population civile.
Et ils sont nombreux, vos staffs, qui ne peuvent pas rester dans leur milieu, puisque c'est déjà des milieux insécures et qui se retrouvent dans le site des déplacés.
Ils sont par dizaines, parce que vous comprenez, c'est des routures. Ils sont maintenant à Goma et d'autres qui étaient à côté de l'autorité territoriale au niveau de Kanyabayonga. Ils ont fui déjà vers Beni. C'est des territoires de Masisi. Ils sont avec nous ici à Goma. Mais aussi ceux qui se trouvent dans des zones qui sont souvent tracassées par les ADF Nalu. Il y a ceux qui se retrouvent maintenant en ville de Beni et au chef-lieu du territoire d'Oicha au lieu d'être dans des entités où normalement ils devraient se retrouver.
Oui, alors pour la ville de Goma, quelle est la plus grande préoccupation actuellement dans les opérations de la protection civile?
La plus grande préoccupation que nous avons en ville de Goma, c'est la gestion des déplacés internes. Parce que, tel que vous le savez, tous ceux qui ont fui vers Masisi, vers Rutshuru, vers Nyiragongo, ils sont cantonnés dans des sites de déplacés, confrontés à beaucoup de défis, tel que vous le savez. La ville de Goma, qui n'a pas de possibilité d'extension, comme vous le savez, la partie sud, nous avons le lac Kivu, la partie est, la République du Rwanda. De l'autre côté, c'est le territoire de Nyiragongo, dont une partie est amputée par la rébellion, et de l'autre côté de Massissi, c'est le parc. Alors, nous sommes obligés tous de nous confiner dans cette petite partie. À cela s'ajoutent les zones non édificantes, là où la population est exposée au risque, par exemple, du dioxyde de carbone. Mais en dehors de ça aussi, cette surpopulation qui se retrouve dans les sites déplacés, avec la ville de Goma, là où il n'y a pas d'espace pour faire des champs, en dehors de ces cantonnements des sites déplacés, une autre réalité, c'est maintenant la maladie et des monkeypox qui envahissent la population avec tout ce que nous avons comme proximité dans les sites déplacés. Cela vraiment, en tout cas, pose aussi un sérieux problème. En dehors de ça, dans la ville de Goma, nous n'avons pas assez vraiment de voies à cas d'une catastrophe pour une évacuation, comme nous sommes quadrillés par cette situation de la surexposition de la ville de Goma.
Comment maintenant vous vous comportez par rapport à tous ces défis-là?
Nous essayons un peu de monter des mécanismes qui facilitent un peu les échanges de la base vers la coordination provinciale et vers les fournisseurs de réponses.
Monsieur Joël Ndagana, merci.
C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes.
Voilà, notre invité et coordonnateur provincial du service de protection civile au Nord Kivu, il répondait aux questions de Bernardin Nyangi. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.